voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Merci et bienvenue. Ce sera donc un combat de coq pour l'élection présidentielle le 27 décembre prochain au Niger, puisqu'ils sont 30 hommes dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. Rappelons que les législatives auront lieu le même jour que le premier tour. Le scrutin, c'est dans un mois, mais en attendant, les Nigériens pleurent, ils sont en deuil. L'ancien président Mamadou Tandja, qui a dirigé le pays de 1999 à 2010, est mort hier soir. Bonsoir, docteur Sedi Kaba.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain nigérien basé à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct. Et avec vous, nous allons évoquer la mémoire du défunt président. Vous l'avez rencontré en 2009, je crois, un an avant son départ du pouvoir. Que pouvez-vous nous dire sur la personnalité de Feu Mamadou Tandja?
Ah, le président Tandja était un homme très attaché au développement du monde rural, au développement humain au Niger. Et lorsque nous l'avions rencontré, c'était à l'occasion d'une mission des partenaires économiques et financiers du Niger qui était venue discuter avec lui de l'assistance que ces bailleurs de fonds pouvaient apporter justement dans le domaine de la mobilisation de zoos, dans le domaine du développement de l'agriculture. Pour l'anecdote, l'entretien était prévu pour une demi-heure et le président Tandja avait retenu la délégation pour une heure et demie parce qu'il était attaché aux questions qui concernent le développement du monde rural, le développement de l'agriculture. Lui-même avait été préfet de Tawa et à l'occasion, pendant cette période-là, il avait beaucoup œuvré pour ce qu'on appelle la région de Keita, un arrondissement de la région de Tawa, et il s'était investi personnellement dans les activités agricoles, dans le développement de l'agriculture. C'était un président paysan pour donner une image.
Oui, il disait justement renforcer le pouvoir d'achat. Il souhaitait effectivement renforcer le pouvoir d'achat des paysans pour leur permettre, disait-il, de mieux se nourrir et d'éduquer et soigner leurs enfants.
C'est tout à fait exact. Et on lui doit d'ailleurs la création de ce qu'on appelle le cadre de santé au Niger. Le Niger est un vaste pays de 1 267 000 km², qui est difficile qu'il ait une infrastructure sanitaire digne de son nom un peu partout. Et le président Tandja a eu la lumineuse idée de doter quasiment chaque village du Niger d'une case de santé, qui est une sorte d'infrastructure sanitaire dans laquelle on pouvait recevoir les premiers soins. Et il avait aussi permis, grâce à une politique d'électrification rurale, que la plupart des villages soient connectés au réseau électrique. Lorsque le réseau électrique passe dans un village, il avait occasionné cela et cela a permis vraiment un rééquilibrage entre les milieux urbains et le milieu rural. Parce que
justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui...
Tout le développement est concentré dans le milieu urbain et le milieu rural est défavorisé. Et le président Tandja a eu à cœur de rééquilibrer cette situation de dichotomie entre le monde rural et le monde urbain.
Qu'est-ce qui faisait qu'il était si attaché au monde rural? Parce que un de ses conseillers révèle d'ailleurs que sa devise était « le village d'abord, la ville ensuite ». Pourquoi il y avait cet attachement au milieu rural?
Je pense qu'on doit, on doit le comprendre par son parcours personnel. Le président Tandja est issu d'une famille modeste de Maïné-Sorwa. Lui-même a vécu sans doute les difficultés que le monde rural peut vivre. Ensuite, son parcours militaire. Et le président Tandja a fait une bonne partie de sa carrière dans les unités maristes. Les unités maristes, ce sont des unités qui se déplacent à dos de chameau ou à dos de cheval. Donc, il a parcouru le Niger. Il connaît, par exemple, la région du Kawar, qui est vaste, qui part un peu du nord du Niger, jusqu'à la frontière de la Libye, jusqu'à la frontière de l'Algérie, jusqu'à la frontière du Tchad. Il a parcouru cette région à dos de chameau et il était en contact permanent avec les paysans. Donc il a vécu leurs difficultés et une fois que lui-même s'est mis en position de gouverner le Niger, il a repensé à son parcours, à ce qu'il a vécu. Et ça explique beaucoup, à mon avis, son attachement au monde rural, au développement du monde rural. Et dans un pays comme le Niger, il est tout à fait normal que le monde rural soit favorisé parce que le monde rural, l'agriculture et l'élevage représentent 80% des occupations des Nigériens.
Et justement, l'un de ses conseillers révélait aussi que la seule fois où il a eu à prendre les vacances pendant son exercice de pouvoir, c'était dans son village qu'il s'est rendu. Alors, Cédric, vous parlez là, peut-être, on peut croire que c'était un président plutôt sobre qui vivait de manière austère, comme on décrit. Est-ce que c'est bien le cas?
Ah, c'était absolument. Le président Tandja était un homme austère qui vivait, puisqu'il était attaché au monde rural, il vivait comme si lui-même était du monde rural. La preuve, c'est qu'il avait une conception de l'État, servir l'État d'abord avant de se servir de l'État. Il n'a pas
plusieurs de ses ministres avaient d'ailleurs été emprisonnés.
Absolument.
Accusé de corruption.
Au bout de deux mandats, n'a pas construit un patrimoine particulier. C'est un patrimoine qu'un fonctionnaire, quelqu'un qui a eu toute sa carrière, puisqu'il faut dire que depuis 1974, le président Tandja est dans la vie publique nigérienne. Il a participé en tant que compagnon du président Séni Kountché au coup d'État de 1974 et depuis lors, il a été ministre ambassadeur jusqu'à devenir président de la République. Le patrimoine qu'il a, il l'a acquis de façon légitime. D'ailleurs, il y a une anecdote dont les Nigériens se souviennent. Lorsque le président Tandja a été élu pour la première fois et qu'il s'est rendu à l'étranger, les dons qui lui ont été faits, il les a reversés au trésor public. En plus, lorsque le président Chavez du Venezuela a donné des tonnes de pétrole au Niger, il a fait revendre ce pétrole-là et que l'argent a été reversé.
Donc son nom était associé à sobriété, des intérêts de la chose publique, des avantages liés à sa fonction.
Exactement. Et en plus de ce que vous avez énuméré, il y a l'attachement à la défense des intérêts du Niger qui l'a amené à prendre des positions courageuses par rapport à Orano, l'ex-Areva, par rapport à la France. Parce que le président Tandja avait le souci de rééquilibrer les relations entre le Niger et ses partenaires. C'est lui qui a créé l'ouverture de l'ère pétrolière. Lorsque Esso, qui avait le permis de Ogaden, a estimé que ce n'était pas rentable de mettre en œuvre l'exploitation pétrolière, c'est lui qui a fait appel aux Chinois pour que...
En déclarant que si les Français ont le seau, le Niger a le puits, en parlant de...
Exactement, il avait eu cette formule.
En parlant de l'uranium.
Absolument, il avait eu cette formule en disant que si les Français ont le puits, ont le seau, le Niger a le puits. Ils peuvent aller avec leur seau. Quelqu'un d'autre qui a le seau va venir et puis nous, on va continuer à exploiter.
Merci beaucoup, Cédric. Désolée de vous interrompre le temps imparti à cette tranche du grand rendez-vous est épuisé. Merci beaucoup à vous, Dr Cédric Abba, journaliste, écrivain. Il était notre invité dans Décryptage.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous ouvrons à présent le débat sur les préparatifs de la présidentielle et des législatives prévues le 27 décembre prochain au Niger. Nous sommes donc à 32 jours exactement de ce scrutin. Et je vous rappelle notre plateau pour débattre de cela. Il y a Ibrahim Bana, membre de la cellule de communication du Modem Femme Lumana. Il est en ligne de Niamey. Monsieur Bana, bonsoir. Pas encore en ligne, me dit-on, du côté de la réalisation. Est-ce que Michael Zodi, coordonnateur national pour le Niger du mouvement Tournant la Page, non plus, il n'est pas encore connecté. Boubacar Sabo, secrétaire aux élections du comité exécutif national du PNDS, c'est le parti au pouvoir, et également responsable de la communication de campagne du candidat Mohamed Bazoum, est aussi en ligne de Niamey. Monsieur Sabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je vais commencer par vous parler un peu de législatives. Nous allons un peu évoquer les législatives, souvent sacrifiées tellement l'enjeu est fort autour de la présidentielle. Alors, vous, votre parti, le PNDS, domine largement l'Assemblée nationale sortante. Vous avez certainement l'ambition de garder cette large majorité. Mais en avez-vous toujours les moyens?
Merci bien de l'opportunité que vous nous offrez. Je dois préciser que je ne suis pas le responsable de la communication, je suis plutôt le responsable de la commission élections et contentieux.
Monsieur Sabo, nous l'avons perdu, Monsieur Sabo, du... PNSD qui la ligne a été interrompue. Je pense que nous allons retourner au standard, voir si M. Michael Zodi du mouvement Tournons la page est en ligne. Hugo Vallière à la réalisation me confirme que oui. M. Zodi, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans le grand rendez-vous sur Africa Radio. Nous allons commencer avec vous en parlant de ces législatives. Le représentant du PNDS, Monsieur Sabo, essayait de répondre à la question qui était la suivante. Est-ce que le PNSD, qui est majoritaire aujourd'hui, qui a la majorité absolue d'ailleurs à l'Assemblée nationale aujourd'hui, a encore les moyens de reconfirmer cela lors de la prochaine élection? Mais vous, au niveau de la société civile. 171 sièges sont de nouveau en jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine à assister à une Assemblée nationale plus équilibrée par rapport aux forces politiques et moins monocolores?
Merci beaucoup. Il faut rappeler que en 2016, j'étais au niveau de la CENI, donc l'organe qui était chargé d'organiser ces élections-là. Et effectivement, ces statistiques-là, telles que présentées, posent problème. Parce que les élections, la façon dont les élections ont été organisées ne nous donne pas le courage d'affirmer que le PNDS est majoritaire au niveau de l'Assemblée, parce que il y a eu tellement d'irrégularités dans ces élections-là et c'était eux qui étaient au pouvoir. Qui ont...
D'accord, mais la réalité aujourd'hui, je ne crois pas que le débat soit encore au niveau de la manière dont ils ont été élus. Le PNDS a 75 députés. Avec ses alliés, ils en comptent 118 contre 53 pour l'opposition, dont 25 pour le Modem Fa Lumana. Allô, Monsieur Zodi, lui aussi, on l'a perdu. Décidément, ce soir, les lignes téléphoniques ne sont pas tendres avec nous et on espère que les choses vont s'arranger très rapidement. En tout cas, je sais que Edouard Nying fait tout son possible pour que nous ayons à nouveau nos invités en ligne. Et Ibrahim Bana, bonsoir, vous êtes en ligne? Non. Nous avons retrouvé Boubacar Sabo. Monsieur Sabo, bonsoir à nouveau.
Bonsoir.
Alors, vous étiez en train... Oui.
J'étais en train de dire que je ne suis pas le chargé de la communication.
Oui, nous l'avons compris. Vous êtes en charge du contentieux. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de pouvoir remporter encore une large victoire aux législatives, même si il y a eu beaucoup de contestations lors de la précédente élection qui vous a accordé cette large majorité en 2016?
Tout d'abord... Merci madame, je suis désolé de ce que Michael Zodi était en train de raconter. Nous pensons que les élections de 2016 ont été des élections transparentes, ce qui était arrivé en réalité, c'est que l'opposition avait déserté le terrain électoral au deuxième tour, mais je pense qu'ils étaient bien...
À nouveau perdu, Boubacar Sabo. Et j'espère qu'on va bien finir par faire l'émission aujourd'hui. On a un invité qui commence et qui compère, ensuite un autre qu'on retrouve, et c'est le cas avec Michael Zodi qu'on a retrouvé. Monsieur Zodi, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bon, on a écouté Monsieur Sabo en partie tout à l'heure, qui n'était pas tout à fait d'accord avec votre lecture de cette élection législative. Mais en tout cas, ce n'est pas là le débat aujourd'hui. Ce que je vous demandais et que vous commenciez à répondre, c'était de savoir comment faire en sorte que le visage de la prochaine Assemblée nationale soit différent de la précédente législature.
C'est très simple, il faut organiser des élections transparentes, libres et crédibles. C'est juste dans l'organisation de ces élections-là, permettre aux citoyens de choisir leurs dirigeants. Comment est-ce que vous pouvez comprendre un citoyen qui est parti...
Décidément, ce n'est pas le bonjour. Nous étions en ligne avec Dr Cédric Abba tout à l'heure, en ligne de Paris. On n'avait pas de soucis. Je crois peut-être, Hugo Vallière, que c'est plutôt à Niamey que les choses ne se déroulent pas bien au niveau de la liaison. Mais en tout cas, je vous rappelle que ce soir, nous débattons des préparatifs des élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre décembre au Niger. 171 sièges sont à pourvoir pour l'Assemblée nationale et 30 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Ibrahim Bana, bienvenue à nouveau.
Bonsoir.
On n'avait pas encore eu l'occasion de vous entendre. Alors, on espère que ça ira mieux. Monsieur Bana, vous êtes donc membre de la communication du Modem Fa Lumana, qui n'a pas de candidat à cette élection présidentielle. Qu'en est-il des législatives?
Effectivement, je voulais, avant de vous répondre, rectifier un peu les choses. Tout à l'heure, dans votre exposé liminaire, vous disiez que le PNDS Tareya avait une majorité absolue à l'Assemblée.
Bon, lui aussi, on l'a perdu, Monsieur Bana, qui est du Modem Fa Lumana, le parti de Hama Amadou, qui n'a donc pas de candidat à l'élection présidentielle. Et nous rappelons que la candidature de Hama Amadou a été retoquée par la Cour constitutionnelle, qui a donc validé 30 candidats sur 30 dossiers sur les 41 qui avaient été déposés. Et cette élection a donc lieu le 27 décembre prochain avec 30 candidats en lice pour la présidentielle. Et parmi ces candidats, il y a Mohamed Bazoum qui est le candidat du parti au pouvoir, le PNSD, et le principal parti d'opposition, Lumana Fa de Hama Amadou, n'a pas de candidat. Puisque le dossier de candidature de Hama Amadou, pourtant investi par son parti, n'a pas été retenu par la Cour constitutionnelle. Et nous allons à nouveau tenter de repartir vers le standard avec l'espoir d'avoir nos invités. C'est vrai que ce va-et-vient, ce n'est pas du tout aisé. Nous nous excusons profondément auprès de nos auditeurs pour ces incidents indépendants, comme vous le constatez, de notre volonté, puisque nous sommes en direct. Monsieur Zodi, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
On espère que vous allez poursuivre votre analyse jusqu'au bout. Alors, vous étiez en train de vous exprimer sur la prochaine élection.
Oui, juste, je dis, pour avoir une bonne configuration au niveau de l'Assemblée, il faut organiser des élections crédibles, transparentes. Et dès au début, vous savez que nous, étant acteurs de la société civile, nous avons observé ce qui se passe dans ce processus. Nous avons constaté des inquiétudes qui sont là. Jusque-là, si on peut le dire, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, ils n'arrivent pas à s'asseoir sur une table pour discuter et organiser des élections consensuelles.
Mais de votre point de vue, tel que vous voyez les choses s'organiser aujourd'hui au niveau de la commission électorale, est-ce qu'on pourrait assister à une élection plus transparente, comme vous le dites?
Mais aujourd'hui, l'opposition n'est même pas au niveau de la CENI. Aujourd'hui, il n'y a plus un cadre de dialogue où on peut trouver le consensus pour organiser ces élections-là. Parce que les gens en ont marre. Nous sommes fatigués. Nous partons nous enrôler. Nous prenons nos cartes d'électeurs. On part, on vote et on vole notre vote. Donc notre voix ne compte pas parce qu'il y a des calculs arithmétiques qui se font et c'est ce qui se dessine à l'horizon. Et c'est pour vous dire que jusque-là, la situation va perdurer. La même façon, ce qui s'est passé en 2016 peut-être va s'empirer cette année. Jusque-là, l'opposition
n'est pas présente. Merci, M. Zodi. On marque une pause, on vous revient.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant pour la suite du grand rendez-vous avec nos invités et la certitude que cette fois ça va être la bonne puisque nous espérons que tout a été réglé côté technique. Nos invités sont Michael Zodi, coordonnateur national pour le Niger du mouvement Tournant la Page, Ibrahim Bana, membre de la cellule communication du Modem Fa Lumana à Niamey, et Boubacar Sabo, secrétaire aux élections du PNSD, le parti au pouvoir. Messieurs, vous êtes tous connectés cette fois. Merci de confirmer.
Merci.
Voilà, tant mieux donc. Nous étions en train de vous écouter, Michael Zodi. Est-ce que vous pouvez conclure vos propos? Vous disiez que tout n'est pas prêt et tel que vous voyez l'organisation, les préparatifs de cette élection, on risque s'acheminer vers des élections peu crédibles, disiez-vous.
Oui. Vous savez, nous avons attiré l'attention de la CENI et tous les acteurs engagés dans le processus que quand on fait un fichier biométrique,
D'accord. Monsieur Ibrahim Abana, vous êtes Ibrahim Bana, vous êtes là?
Oui, je suis là, je suis là.
Alors, donc, pour vous aussi, comme M. Zodi, vous estimez que cette élection ne va pas être transparente. Et je vous demandais, vous n'avez pas de candidat à cette élection pour la présidentielle, les législatives, et aussi, quel est votre regard, même si vous n'êtes pas impliqué dans le processus?
Écoutez, nous ne sommes pas impliqués dans le processus. Cela concerne toute l'opposition, parce que le gouvernement du Mahamadou Issoufou a fait le choix de conduire le processus électoral en excluant ou en refusant de considérer les...
Bon, pas de chance, et c'est dommage. Monsieur Sabo, vous êtes avec nous, vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien.
Vous vous êtes accusé de tout faire pour organiser une élection uniquement favorable à votre parti, le PNDS.
Merci, je vous remercie. Vous savez, nous, notre parti, depuis le début de l'ère démocratique, a essayé de s'implanter sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est le seul parti d'envergure nationale. Tous les autres partis qui sont en train de défendre aussi bien Michael Zodi qu'Ibrahim Bana sont des partis presque départementaux ou régionaux. C'est ça le gros problème de l'opposition.
Après le Modem FA, pour vous, est un parti départemental?
Pour nous, le Modem FA est un parti régional. Il est tout juste implanté au niveau de la région de Tillabéri, la région de Niamey, la région de Dosso. Au niveau des autres régions, ils ont un siège ou zéro siège carrément si vous prenez Agadez, ou un siège au niveau de Tillabéri, un siège au niveau de Zender et deux sièges au niveau de Maradi et un siège au niveau de la région de Tawa. Donc, c'est ces partis pratiquement régionaux qui aujourd'hui se sont mis dans la tête de boycotter plus ou moins et en fait de décrédibiliser l'élection au Niger parce qu'ils savaient dans tous les cas qu'ils n'avaient aucune chance aussi bien au niveau de l'Assemblée qu'au niveau des élections présidentielles, d'avoir quoi que ce soit.
Donc vous estimez que, en raison de votre implantation, vous avez les moyens démocratiques de remporter la prochaine élection, les législatives, de même que les présidentielles, la présidentielle.
Inch'Allah, au niveau, si Dieu nous prête longue vie, le 27 décembre, vous allez voir que le PNDS et ses alliés allaient avoir ou va avoir une très large majorité au niveau de l'Assemblée, pour la simple raison que même les députés de l'ancienne législature des autres partis de l'opposition ont rejoint pratiquement le PNDS. Je peux vous citer au moins 17 députés de l'ancienne législature qui se trouvent au niveau de l'opposition.
Mais avec des méthodes bien dénoncées par l'opposition, on sait par exemple qu'on vous accuse d'avoir tout fait pour casser le principal parti d'opposition, l'Oumanafa, qui est aujourd'hui en deux tendances au moins, et d'avoir organisé l'affaire de Bébé au Nigeria juste pour écarter le candidat de l'Oumanafa, Ama Amadou.
S'il vous plaît, madame, le PNDS a été pendant 20 ans au niveau à l'opposition où les autres disaient pourquoi ils n'ont pas été concassés. Je pense que cette expression de concassage des partis, c'est vraiment une mauvaise trouvaille pour l'opposition nigérienne. L'opposition nigérienne devait faire ce qu'a fait le PNDS quand il était à l'opposition, c'est-à-dire c'est d'investir le terrain, d'avoir un programme cohérent et surtout d'avoir une vision pour le Niger, ceux qui n'ont pas. Ils ont une vision pour des hommes, les hommes passent, le Niger... lui, il demeure. Donc, le PNDS, à la différence des autres, c'est un projet, c'est une vision qui a été incarnée par le président Mahamadou Issoufou et qui sera incarnée ou qui est incarnée actuellement par le président Mohamed Bazoum.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus au niveau de la commission électorale pour cette élection qui est prévue dans un mois?
Madame, je suis bien placée pour vous expliquer un peu. La CENI au niveau du Niger, la Commission électorale nationale indépendante, je défie qui que ce soit de démontrer qu'il y a une CENI aussi équilibrée que celle du Niger.
Mais M. Zodi disait qu'il n'y a pas que l'opposition n'y est pas valablement représentée.
Mais pardon, c'est l'opposition qui n'y est pas. Pour le moment, les non-affiliés et la société civile y est. Pour revenir pour Michael Zodi, Michael Zodi était bien dans le processus électoral de 2016. Mais comme il était un relais de l'opposition, il pensait en quittant la CENI, il allait entacher la crédibilité des élections. Malheureusement, nous avons une société civile, une partie de la société civile nigérienne qui est tellement inféodée à l'opposition qu'il n'ouvre pas les yeux pour voir ce qui se passe en réalité.
Merci, M. Sabo. On va à présent écouter, on l'espère bien, M. Bana. M. Bana, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Voilà, vous venez d'entendre M. Sabo qui dit et qui soutient que voilà, l'élection se déroulera de manière transparente parce que la commission électorale est équilibrée et est capable d'assurer cette élection de manière transparente.
Écoutez, madame, oui, madame, même si nous sommes en politique, il faut avoir peur de raconter des contre-vérités de la... De la sorte dont le monsieur du PNDS vient de le faire. Il est bien établi aujourd'hui que l'opposition tout entière est absente.
Monsieur Zodi, vous êtes là ?
Je suis là, je suis là.
Oui, vous pouvez répondre à la même question. Vous ne croyez pas que l'élection va être transparente et que vous dites que les conditions de son organisation ne peuvent pas garantir la transparence ?
Oui, oui, oui. J'ai bien écouté M. Sabo et je pense bien que le discours qu'il est en train de tenir, c'est un discours pour la consommation internationale. Ici, au Niger, il ne peut pas tenir ce discours-là pour expliquer, pour dire aux gens le processus est bien engagé. Et aujourd'hui, il faut prendre... nous, on se pose même la question du financement des partis politiques. Aujourd'hui, c'est...
Décidément, je pense qu'on va retourner à M. Sabo. Jamais dans l'histoire de cette émission, on a connu pareille situation et nous espérons que c'est l'unique fois où cela arrive et que les choses vont être réglées. Monsieur Sabo, et du coup, vous avez un peu un boulevard parce que vous êtes par WhatsApp, donc votre ligne passe beaucoup mieux. En tout cas, les deux autres participants n'en démordent pas et disent que ce que vous dites n'est pas conforme à la réalité.
Je vais vous dire, madame, la composition de la CENI, c'est 5 représentants de la majorité, 5 représentants de l'opposition, 2 représentants des non-affiliés, 2 représentants de la société civile, 3 représentants de l'administration qui n'ont aucune voix délibérative, le président et le vice-président qui ont été choisis par appel à candidature. Donc, si nous, au niveau de la majorité, nous avons 5 sièges et l'opposition a 5 sièges, si elle ne participe pas, est-ce que c'est la faute du PNDS? Par ailleurs, tous ceux qui sont en train de parler, en tout cas pour ceux qui sont des partis politiques, ils étaient effectivement présents au niveau de l'enrôlement biométrique parce que tous ils étaient présents au niveau des commissions administratives qui étaient chargées de superviser l'enrôlement des électeurs. Donc on ne peut pas aujourd'hui, pour la consommation internationale, pour dire qu'il y a quelque chose au Niger où la commission a fait ceci. Tous, au niveau du comité de vigilance qu'il y a au niveau des villages, la représentation, c'était un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition, un représentant des non-affiliés et un représentant des chefs de village. C'est eux qui ont assuré aussi bien l'enrôlement que la distribution aujourd'hui.
Mais vous admettez quand même, M. Sabo, qu'il y a des contestations fortes au niveau de la composition de la commission électorale. Est-ce que cela ne présage pas des tensions après cette élection?
Je vais vous dire, étant dans ce processus, qu'en fait, le problème de l'opposition, ils ont demandé à ce que tous les partis présents à l'Assemblée aient des sièges à la CENI, ceux qui faisaient 16. Or, à l'époque, quand vous regardez, il y avait 11 partis de la majorité. Nous nous sommes dit, c'est en acceptant cette proposition de faire qu'il y ait 11 représentants des partis de la majorité et 4 de l'opposition que la CENI sera déséquilibrée. Et nous n'avions pas accepté parce que nous savions qu'effectivement, au moment des élections, ils vont dire que voilà, il y a une CENI déséquilibrée. C'est pourquoi nous avons opté, en tout cas, nous nous sommes battus pour qu'il y ait une CENI équilibrée au niveau des partis politiques. En réalité, en termes de partis politiques, aujourd'hui, si ils étaient venus, ça veut dire qu'ils étaient majoritaires, puisque les deux non-affiliés, c'est des gens qui n'étaient pas avec le gouvernement, comme leur nom l'indique, ça veut dire qu'ils sont de l'opposition, puisqu'ils s'opposent de toutes les manières
Merci.
Au gouvernement.
Merci.
Donc, je ne vois pas ce faux débat. Vraiment, c'est un faux débat par rapport à la composition de la CENI. Et je vous dis, je défie Michael Zodi et Ibrahim Bana de me dire que si les partis respectaient, parce qu'ils sont tous de l'Oumana, si ces partis n'ont pas participé.
Mais M. Zodi est de la société civile, s'il vous plaît, M. Sabo. M. Zodi, Michael, est de la société civile, il n'est pas de, de l'Umanafa, en
Pardon,
tout cas c'est...
Je peux vous dire qu'il est de la société civile, nous savons de quel parti il
bon,
est.
Bon, c'est vous qui le dites, voilà, je voudrais qu'on quitte un
oui,
peu
moi,
le...
Oui, moi il est de l'Umana.
Monsieur Sabo.
Il est de l'Umana FA, il le sait très bien.
Bon, quittons un peu ce débat sur la crédibilité du processus et la composition de la commission électorale, pour parler de cette affluence hein, des candidature, 30 le 27 décembre prochain à la présidentielle contre 15 il y a 5 ans et 10, je crois, en 2011. Pourquoi y a-t-il autant d'engouement? C'est comme s'il s'agit il s'agissait d'une foire électorale.
Moi, je ne sais pas, mais c'est le code électoral nigérien qui est très souple par rapport aux conditions d'éligibilité aux élections présidentielles. Il n'y a pas, contrairement au Bénin ou au Sénégal ou d'autres pays, le parrainage. C'est que vous créez un parti aujourd'hui, vous avez la possibilité à travers ce parti de vous présenter aux élections présidentielles.
Donc, c'est mais certains parlent plutôt de mise en œuvre d'une stratégie qu'il y a des gros candidats qui financent les petits pour faire éclater les voix et après, dans le cadre d'un éventuel second tour, bénéficier des alliances avec ces candidats.
Et moi, je ne crois pas. Au niveau, en tout cas, nous, au niveau de notre parti, nous n'avons pas développé cette stratégie parce que nous pensons que plus il y a moins de candidats, plus peut-être les risques que les électeurs sont trompés sont moins nombreux. Vous savez, aux dernières élections, ce qu'on avait constaté, et c'est ce qui nous a empêché d'avoir le coup KO, il y avait pratiquement, dans certaines régions comme Zender et Maradi, pratiquement 12% de taux de bulletin blanc ou nul parce que les électeurs se trompaient et parce qu'effectivement, il y avait peut-être beaucoup de candidats.
Merci.
Donc, je ne sais pas ce que ça va donner
Merci.
Avec une trentaine de candidats.
Merci beaucoup, monsieur Sabo. Vous avez parlé presque tout seul. On va encore et à nouveau tenter d'entendre monsieur Zodi. Monsieur Zodi?
Oui, je suis là.
Voilà, donc vous avez entendu M. Sabo qui estime que le nombre de candidatures, je parlais de 30, mais peut-être avant de réagir à cela, vous vouliez terminer vos propos sur la transparence de cette élection et vos inquiétudes par rapport à la configuration de la commission électorale.
Oui, M. Sabo, vous avez dit qu'en 2016, j'étais à la CENI. Mais comment comprendre quand un candidat part dans un bureau de vote? Il part dans un bureau de vote, il vote et à la fin de journée, quand on fait les décomptes, il a zéro voix. C'est pour vous dire que...
Monsieur Bana? Allô, monsieur Bana?
Oui, je suis là.
Oui, vous pouvez poursuivre là où peut-être monsieur Zodi a terminé, sur une fois de plus conclure sur cette commission électorale.
La crédibilité de du processus, ça ne se limite pas qu'à la CENI. Au niveau de l'opposition, nous avons dénoncé le caractère monocolore de la CENI, de la Cour constitutionnelle, et nous avons aussi émis des doutes sur la crédibilité du fichier électoral biométrique. Et aujourd'hui, l'opposition, lorsque nous sommes rentrés en possession de nos cartes, nous nous sommes rendus compte que les cartes électorales que la constitution de notre pays ou le code électoral avait voulu biométrique, les cartes électorales n'ont rien de biométrique. Et cela nous pousse à émettre des réserves ou avoir des doutes sur la crédibilité du processus. Contrairement à ce qu'a dit M. Sabo tout à l'heure, la CENI, elle est, en plus des représentants du parti, de la majorité, la CENI et les autres membres de
merci,
la CENI.
Merci, on marque une pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons continuer de parler des préparatifs de la présidentielle et des élections législatives au Niger le 27 décembre prochain avec nos invités Boubacar Sabo du PNDS, le parti au pouvoir, Ibrahim Bana du Modem Fa Lumana de Ama Amadou et Michael Zodi, le coordonnateur national pour le Niger du mouvement Tournons la Page. Nous allons vous redonner la parole, Monsieur Bana, pour conclure vos propos. Mais je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Quel changement faut-il opérer au niveau de la CENI pour vous convaincre de ce que cette CENI peut garantir les élections transparentes?
Écoutez, madame, je vais vous prendre un exemple sur le manque de sincérité de la CENI. Il y a quelques jours, sur la base des cartes d'électeurs que nous avons reçues, l'opposition a écrit un courrier au président.
Monsieur Zodi ?
Là, pour le moment.
Pour le moment, c'est vous qui avez la parole, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la commission électorale soit plus consensuelle ?
Il faut amener d'abord les deux partis, que ce soit l'opposition et la majorité, à une table de négociation, qu'on puisse faire les débats et trouver le juste milieu, c'est-à-dire le consensus. Mais sans consensus, je ne pense pas.
Bon, nous allons à nouveau retourner à un dialogue carrément avec M. Sabo. Monsieur Sabo ? Allô.
Merci, madame. Je viens.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau de la CENI? Est-ce que vous êtes ouvert à tout changement et au niveau de la CENI pour respecter les souhaits de l'opposition?
Madame, je vous assure, l'opposition viendra à la CENI. Elle viendra à la CENI d'autant plus que les 31 candidats, c'est ce que permet le code électoral nigérien. Les 30 candidats aux élections présidentielles ont la possibilité d'envoyer un représentant au niveau de la CENI et il est membre de droit avec voix délibérative au niveau de la CENI. Donc vraiment, c'est une CENI qui va avoir 30 membres en plus qui va travailler. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que le seul représentant du candidat Bazoum va influencer sur l'ensemble de la quarantaine des membres de c'est là où je trouve.
Mais vous minimisez les problèmes que pose l'opposition monsieur Sabo, mais la commission électorale est la clé de voûte de ce processus.
Madame, je n'ai jamais minimisé le problème que pose l'opposition. Je vous ai expliqué en termes de nombre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on dit l'opposition c'est 5, la majorité c'est 5 membres? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous avez entendu, j'ai entendu Bana parler de la Cour constitutionnelle. Mais vraiment, c'est malheureux. La Cour constitutionnelle du Niger, madame, les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle sont élus. Le président de la République a un seul représentant, de même que le président de l'Assemblée. Tout le reste, les 5 membres sont élus par leur corporation. Aujourd'hui, on nous dit que la Cour constitutionnelle est monolithique. Vous voyez de la manière dont les débats sont dévoyés à l'international pour montrer que le processus n'est pas crédible. Est-ce qu'il y a une Cour constitutionnelle de la sous-région où les 5 représentants sont élus et il n'y a que 2 représentants des autorités au niveau présidentiel et au niveau de législatif?
D'accord. Donc vous vous défendez que la commission électorale est représentative de la classe politique. Alors on va aborder un autre aspect très rapidement. Je parlais de combat de coq, du fait qu'il n'y a pas de femme candidate. Sur les 30, aucune femme. En 2016, sur les 15, aucune femme. Pourtant, il y en avait une quand même en 2011. Comment expliquez-vous cette situation? Quelles en sont les raisons?
Et malheureusement, donc, nous nous trouvons dans cette situation où il n'y a aucune candidature féminine qui est probablement liée à notre contexte culturel. Effectivement, en 2011, il y a...
Et ça fait les affaires des hommes politiques, même au niveau du PNSD, ça vous arrange? Est-ce que vous encouragez les femmes à être candidates et à s'intéresser, à demander à occuper des postes importants?
Au niveau du PNDS, au-delà de la loi sur le quota où nous avons promis depuis 2011, parce que si vous vous rappelez, le quota en 2010, c'était 10%. Nous l'avons amené à 15% pour l'amener aujourd'hui à 25% au niveau des fonctions électives. Et Inch'Allah, nous serons au moins à l'agenda 50-50, étant donné que notre parti est membre de l'International Socialiste. Donc nous y travaillons, mais il faut essentiellement aussi travailler par rapport au contexte culturel. Comme vous l'avez constaté, la première femme qui a été candidate en 2011, elle s'est retrouvée pratiquement avec 12 000 voix, ce qui fait 0,02% de l'électorat. Et probablement, c'est ça qui a découragé les autres femmes et à ne pas se présenter aussi
merci monsieur Sabo. Merci monsieur Sabo. Monsieur Zodi et Bana sont à nouveau en ligne et je suis désolée, on ne va pas vous faire réagir sur cette absence de candidature féminine parce que je crois que votre débat c'est surtout la transparence et de ce processus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que je vous posais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre la CENI plus crédible?
Aujourd'hui, si même opposant président de la CENI, c'est un système qui est verrouillé. Le système est verrouillé par... Je vous ai dit, en 2016, il y a eu des candidats qui ont voté dans leur propre bureau de vote. Ils ont recueilli zéro voix dans leur bureau de vote. Ils étaient partis avec leur famille, leurs militants voter. Ils ont eu zéro voix. Donc, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est le même système qui est en train de s'installer aujourd'hui.
Monsieur Zodi, on a perdu Monsieur Bana.
Je suis là.
Est-ce que vous faites confiance au processus qui va venir?
Non, nous ne faisons pas confiance. Nous avons dit depuis longtemps, parce que le PNDS, contrairement à ce qu'a dit son représentant, avait tout fait depuis 2017, lorsqu'il s'agit de reprendre le procès, de toiletter les têtes.
Monsieur Sabo? Allô?
Oui.
Oui, Monsieur Sabo, donc on vous accuse de tout mettre en place pour que votre parti, le PNDS, rafle les législatives et que votre candidat, Mohamed Bazoum, passe également lors de cette présidentielle.
Et moi, je ne sais pas, vous voyez...
En verrouillant la commission électorale.
Oui, j'arrive, vous voyez, pour répondre à Michael Zedi, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est purement anecdotique. Je vous rappelle qu'au niveau des membres du bureau... Les membres du bureau au niveau des élections au Niger, c'est que chaque parti politique a droit à avoir jusqu'à deux représentants dans un bureau de vote et on est obligé à la fin au dépouillement de mettre leur réclamation.
Merci.
Donc je suis surpris que Michael passe sur cette anecdote de quelqu'un, je ne sais pas où, ou c'est quel candidat qui a voté et qui s'est retrouvé avec zéro voix.
Merci beaucoup. C'est la fin. Je suis désolée, monsieur Sabo, vous avez longuement parlé presque tout seul pendant cette émission. Merci à Michael Zodi du mouvement Tourner la page, à Ibrahim Bana de l'Oumanafa et à vous du PNDS. Nous nous excusons pour les conditions techniques dans lesquelles s'est déroulée votre émission, le grand rendez-vous. Et nous espérons que nous vous retrouverons demain avec moins de difficultés techniques. Bonsoir et restez avec nous.